Je vais laisser la parole à Manon Pingacharlo, si tu es là.
Je ne sais pas si vous nous voyez.
Pour l'instant, non, on ne te voit pas. Et si tu veux bien nous partager
Bah
ton...
ouais, j'essaie.
Moi, j'ai la caméra, par contre.
Ah. Alors.
Ça y est, oui, on te voit.
Et là, est-ce que vous voyez le diapo et est-ce que vous le voyez défiler? C'est ça la question.
Alors, oui, c'est bon.
Bon, c'est bon, alors je reste comme ça.
Voilà,
C'est parti.
merci. Donc, pareil, hein, je te sonne au bout de 17 minutes pour te dire qu'il faut aborder la conclusion.
Ça marche, merci. Je lance le chrono en même temps. Hop, voilà. Merci beaucoup. Un peu comme toutes les autres présentations, je pense que ce que je vais vous présenter aujourd'hui va vraiment faire écho et va venir en complémentarité aussi de ce qui a été présenté ce matin. L'idée, c'est d'aborder en fait la question de la problématisation et de l'appropriation de la transition à travers le label de collectivité territoriale qui s'appelle Sitergi. Juste pour donc recadrer un peu comment j'en suis venue là. Alors en fait, dans ce contexte, justement, un peu, alors je vais vite parce que c'est des choses qui ont déjà été présentées, mais d'urgence climatique et puis d'injonction à agir localement, il y a vraiment eu une multiplication des labels ciblés environnement et énergie. Il y a eu Sitergi, Territoire bio engagé, Citaslow, Ville et village étoilés, dont a parlé Mathilde tout à l'heure. Et finalement, il y a eu aussi un peu, dans ce contexte-là, les acteurs territoriaux de la labellisation sont devenus des acteurs au cœur des politiques publiques climat-air-énergie dans les territoires. Et en fait, en partant de ce double constat, on s'est posé la question du label comme potentiel opérateur de la transition dans les territoires. Comme si les collectivités pouvaient se saisir en fait d'un label pour dire bonjour ce matin, c'est parti, on va sauver la planète en se mettant en transition avec ce label. Donc en partant de ce constat, je suis allée un peu creuser sur les questions, la façon dont la transition était abordée en fait dans le label Sitergi. Et je me suis rendu compte que déjà dans Transition, il y avait une idée quand même de mobilisation. Et ça, c'est quelque chose qui est porté, donc pas que dans le label Sitergi, mais voilà, là globalement. Et puis qu'en fait, s'il y a mobilisation, à un moment, ça implique qu'il y ait non seulement une réflexion, mais aussi une réflexivité, une capacité aussi à penser sur soi et son action. Alors là aussi, encore une fois, à la fois dans la recherche et puis dans les entretiens que j'avais fait un peu pré-exploratoire avec des chercheurs et puis avec des acteurs du label Sitergi. Et dans les documents, je me suis bien rendu compte qu'en fait, finalement, la transition a été prise comme un postulat, comme une évidence, comme le disait Linaïg, et que, en fait, finalement, qu'on creuse un peu, qu'on essaye de voir ce qu'on met derrière, c'est un petit peu une espèce de notion écran, une espèce de boîte noire qui serait un peu sous-théorisée, comme le dit Stéphane Aycout. Et avec ces deux premières sensations, je suis allée creuser un peu sur le discours officiel de l'ADEME et je me suis rendu compte que c'était un discours qui était essentiellement technique sur la transition, avec vraiment des approches très techniques, pragmatiques. Et donc, je me suis posé la question de comment et par qui la transition est problématisée, labellisée et appropriée. Alors en fait, je vous explique un peu tout ça d'abord et je rentre maintenant dans Sitergi parce que ça permet un peu justement de cadrer et de comprendre après ce que je vous développerai. Mais donc je passe aussi par le fait qu'en fait, Sitergi, ça a été du coup à la fois mon objet d'étude et en même temps mon terrain puisque je suis allée regarder des documents et questionner des acteurs qui faisaient partie en fait du système d'acteurs de Sitergi. Donc rapidement, le label Sitergi, alors en fait, c'est donc à la fois un label et en même temps, ça veut aussi être une méthodologie. C'est-à-dire que bon, c'est un label qui vient reconnaître l'engagement volontaire des collectivités pour se mettre en action et donc élaborer une politique climat-air-énergie. Et ça veut aussi venir outiller la collectivité pour qu'elle puisse élaborer, structurer et mettre en œuvre cette politique sur son territoire. Donc ce Citergy, en fait, c'est une marque qui appartient à l'ADEME, qui en fait correspond à la déclinaison française qui a été faite en 2008 à partir du label européen European Energy Award, qui lui donc a été créé en 1997 par un consortium et qui existe donc dans différents pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, qui sont donc les pays un peu fondateurs de ce label. Et puis il a été donc justement décliné en 2008 dans un contexte qui faisait suite au fameux Grenelle de l'environnement dont on parlait ce matin, et puis au rapport un peu alarmant du GIEC qui était sorti dans ces eaux-là. Juste pour finir sur la Citergy et sa définition, alors en fait c'est un label qui a trois niveaux de labellisation. Un premier qui s'appelle CAF Citergy, ou en fait qui correspond à peu près donc à, enfin, qui correspond à 35% d'actions réalisées et 15% d'actions programmées par la collectivité. Le niveau Citergy qui correspond à la moitié, 50%. Et puis le niveau Citergy Gold qui vient labelliser des collectivités qui sont à 75%. Alors je vous parle de pourcentage, en fait c'est les pourcentages d'actions qui sont menées par rapport aux compétences de la collectivité. C'est-à-dire que Citergy, en fait, vient, c'est un label qui vient évaluer, donc suivre et évaluer la politique climat et énergie de la collectivité à partir d'un référentiel standard, mais des abattements sont effectués en fonction des compétences de la collectivité. Et donc ça vient labelliser en plus de 200 collectivités. Donc quand je dis collectivité, c'est de la commune à la communauté urbaine, en passant par la communauté de communes et la communauté d'agglomération. Comment j'en suis arrivée sur le label vraiment Citergy? Alors juste rapidement, pour finir sur les éléments un peu de cadrage, en fait, j'ai d'abord exploré les labels qui s'exerçaient sur le territoire français. Donc là, j'ai créé une base de données d'un peu plus de 600 labels que j'ai explorés, qui m'a permis, enfin, dont j'ai tiré en fait un échantillon de 10 labels sur lesquels j'ai un peu creusé. Et dans ces 10 labels, j'ai choisi Citergy, notamment parce que c'est un label en fait qui vient labelliser des collectivités locales, qui est porté par une institution qui est l'ADEME, qui en fait est un opérateur de l'État. Donc ça permettait d'avoir aussi, disons, de voir la vision un peu institutionnelle en fait de la transition. Et donc bah après sur Citergy, j'ai creusé donc la documentation officielle produite par l'ADEME et le bureau d'appui national qui gère et qui communique sur Citergy. J'ai fait une petite revue de presse pour analyser les grands discours. Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est juste pour contextualiser un peu ce que je vais présenter. Là, j'en suis en fait à analyser les entretiens que j'ai faits, donc un peu moins d'une quarantaine d'entretiens. Et je suis en ce moment aussi en train d'observer des réunions, des audits qui sont faits dans le cadre de Citergy. Et donc, les premiers éléments que je vais vous présenter, en fait, ils sont un peu là à cheval entre l'analyse des entretiens, les observations qui sont en cours, et puis bon, bah, le début de structuration un peu de mes résultats. Et donc, juste pour que vous ayez une petite idée des choses, voilà, j'ai le label étant Citergy portant sur le territoire français, j'ai essayé autant que faire se peut d'interroger des personnes qui soient réparties un peu sur le territoire français. Et donc, j'ai interrogé cinq grandes catégories d'acteurs, des communes et des EPCI, des bureaux d'études, parce qu'en fait, dans ces structures, il y a ce qu'on appelle des conseillers Citergy, qui sont en fait des consultants privés qui viennent accompagner la collectivité sur toute la durée du cycle de labellisation, l'ADEME en direction régionale et au siège, trois membres de la commission nationale du label, et puis quatre partenaires en fait opérationnels des collectivités et de l'ADEME sur le déploiement de Citergy dans les collectivités françaises. Donc là, j'en viens un peu au cœur de la présentation. Donc comme je vous le disais, je suis en train un peu d'essayer de construire trois grands sous-questionnements là dans cette phase d'observation et puis d'analyse des entretiens. Un premier questionnement sur en fait ce que le label produit comme effet sur le fonctionnement de la collectivité. Alors, il y a un élément une grande question en fait qui ressort quand on s'intéresse à ces effets, c'est la question en fait de l'organisation de la vie collective. C'est-à-dire qu'à un moment, le label il vient en fait apporter et re-questionner la culture, les habitudes et les automatismes qui existent à la fois dans les collectivités et puis dans les directions régionales de l'ADEME ou dans les bureaux d'études plutôt spécialisés environnement, énergie et questions énergétiques, où on voit qu'en fait, il y a parfois une culture de travail en silo. En fait, alors, ces questions de culture, d'habitude et d'automatisme, c'est vraiment à la fois sur la question de la transition et aussi sur simplement les modes en fait, de fonctionnement qui sont intégrés dans la collectivité. Par exemple, voilà, est-ce qu'on a en fait développé une métrologie, une mesure en fait d'indicateurs dans nos bâtiments publics de manière automatique, et donc on a développé ces automatismes à régulièrement mesurer, ce qui nous permet de suivre la consommation de nos bâtiments. Voilà. Juste par exemple, on voit aussi ben, en fait en termes d'organisation de la vie collective que la question de la mobilisation et des moyens qui sont donnés aux acteurs, donc là dans les collectivités pour le coup, de mener la transition, c'est vraiment des choses qui sont perçues comme des leviers. Et en fait comme des leviers qui justement viennent un peu en décalage par rapport à l'urgence à l'action, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une situation où il faut agir de manière urgente pour atténuer et s'adapter face au changement climatique, sauf qu'on a en fait des difficultés à mobiliser et puis on a peu de moyens et puis on est dans des institutions qui fonctionnent avec une inertie assez importante, et c'est un décalage qui est vraiment beaucoup ressenti. Et qui est presque exacerbé en fait par l'arrivée d'outils comme le label qui vient poser des choses très cycliques et très mesurées. Et finalement, ça questionne finalement pour ces acteurs-là, qu'est-ce que ça signifie être une collectivité aujourd'hui, et plus largement, qu'est-ce que ça signifie être une collectivité en transition aujourd'hui. Et quand on regarde bah, pour ces collectivités, quelle trajectoire, quel chemin elles empruntent, historiquement, on se rend compte qu'en fait, il y a différents marqueurs de ces chemins-là. Il y a parfois des collectivités qui rentrent par la question de l'énergie. C'est le cas justement de Pau, qui est vraiment rentré donc par la question énergétique pour faire écho à la présentation de l'ENAIG. Il y a aussi des collectivités qui adoptent une vision très managériale de l'évaluation des politiques publiques. Il y a des collectivités qui cherchent à se doter en ressources humaines justement pour contrer cette question du manque de moyens. Voilà, il y a plein de marqueurs qui sont... de mécanismes en fait qui sont utilisés par la collectivité pour en fait un peu changer son fonctionnement, ajuster son fonctionnement pour répondre aux exigences du label et des réglementations et se mettre en transition. Et puis il y a aussi en fait par le label tout simplement l'introduction d'un discours sur le changement, donc à la fois sur le changement climatique et puis sur le changement de la structuration de l'action publique en fait. Tout simplement, alors si je rentre très pragmatiquement dans les choses, bah parce qu'en fait le label il a deux grands domaines. Alors il y a sur les six grands domaines, il y en a deux qui s'intéressent en fait à la question donc, de la gouvernance à l'intérieur de la collectivité, de la coopération avec les acteurs du territoire et puis de la communication sur cette mise en transition de la collectivité. Et puis aussi sur l'aspect très patrimoine de la collectivité dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait on va regarder un peu comment la collectivité se gère, gère en interne son patrimoine, mesure les choses. Et en fait on pousse la collectivité à la fois à se restructurer dans et puis à tenir compte de la nécessité en fait de ses habitudes et sa culture et son fonctionnement pour se mettre en transition. Après, donc là, si on va dans quelque chose peut-être un peu plus abstrait, donc n'hésitez pas sur ces axes-là à vraiment aller me chercher dans les questions, parce que je suis toujours justement en construction un peu et en structuration de ma pensée, et ça peut être un peu compliqué à saisir, mais voilà, globalement, il y a trois grandes approches de la transition chez les acteurs de Citergie. Une approche très pragmatique de la transition, où on est vraiment dans le côté justement très indicateur, très technique, de la transition, on va se saisir de la transition comme quelque chose qu'il faut aller tout de suite mettre en action, mettre en œuvre, élaborer et structurer une action plutôt climat et énergie. Et puis on a une approche plutôt qui tient compte du caractère diffus, systémique et complexe, presque là, des transitions. Et finalement, on a une espèce d'approche un peu intermédiaire, où c'est des collectivités qui souvent en fait sont rentrées par l'approche pragmatique, qui avaient une approche vraiment très, très technique et pragmatique de la transition, puis au fur et à mesure qui ont vu le caractère en fait systémique et complexe de la transition émerger. Et en fait, alors, il y a aussi, quand on s'intéresse aux concepts qui sont adoptés par ces acteurs, on voit qu'il y a une multitude de concepts et qui sont toutes ces postures, ces approches, ces conceptions, elles ne sont vraiment pas exclusives, hein. C'est très interrelié, c'est vraiment chaque individu qui compose un peu sa réflexion et sa réflexivité sur la transition avec un petit peu toutes ces cases-là, tous ces mots. Et donc les concepts qui sont adoptés généralement par les acteurs de Sitergie, que ce soit dans la collectivité, les bureaux d'études ou à l'ADEME, sont souvent ceux de développement durable qui est présenté comme galvaudé, mais qui n'empêche pas qu'on s'inscrive dans cette dynamique de transition. Il y a beaucoup aussi une montée en puissance de la question de la sobriété, de la résilience, voilà. On pourra en discuter aussi si vous voulez. Il y a aussi des grandes postures en fait, de conception de la transition qui sont ressorties. Je continue à aller un peu vite là-dessus parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais il y a vraiment la question du changement de paradigme qui est souvent évoquée, c'est-à-dire que la transition, elle est vraiment vue comme la nécessité de changer de paradigme, et c'est vraiment dit comme ça, hein, ou alors de changer de modèle, de changer en fait, de société. Alors, après, ça dépend des mots qui sont mis par les acteurs là-dessus, mais en tout cas, la nécessité d'un changement qui se traduit par le terme en fait, de transition. L'idée aussi que la transition... intrinsèquement, elle est liée à l'idée de processus. Il y a une accumulation de questions sur la temporalité. Alors, pas que moyen, long et court terme, mais aussi des cycles, mais aussi une idée que, bah, comme c'est un processus, bah, il y a une importance essentielle en fait, de la question du temps et des temps dans la transition. Et puis, un aspect un peu plus marketing de la transition, où en fait là on a vraiment l'idée que bah, la transition c'est un mot qui est à la mode, dont on se saisit ou pas en fonction des stratégies qu'on met en place, et qui peut parfois du coup être mal vécu ou accepté. Voilà. Et c'est un petit peu ça pour tout, c'est-à-dire que tous ces éléments, toutes ces trois grandes postures de conception de la transition, parfois elles sont évoquées de manière un peu critique, dans le sens plutôt négatif, ou parfois de manière critique, mais vraiment constructive, où on dénonce ça, mais ça n'empêche pas qu'on s'inscrive là-dedans, ou carrément, ben voilà, en fait, on adhère à cette idée de changement ou de marketing, parce qu'il faut s'en saisir, il faut aussi rentrer là-dedans pour être en transition, quoi. Donc c'est vraiment, encore une fois, propre à chaque individu. C'est ce qui fait que c'est très complexe à retranscrire encore pour moi, parce qu'il me faut peut-être plus de recul, justement, pour essayer de voir un peu des trajectoires ou peut-être des catégories. Moi, j'essaye d'aller vite. Je finis. Et donc, juste, voilà, il y a une grande diversité, en fait, des limites à la réflexivité pour les acteurs des collectivités, quand on s'intéresse vraiment à la mise en transition des collectivités, avec notamment bah, le fait que Sitergie vient reproduire des rapports de force qui existent, en fait, déjà hein, dans les collectivités, mais qui fait qu'il y a une démocratie qui est assez vécue comme... disons, limitant la réflexivité pour les chargés de mission dans les collectivités, par exemple. On en a parlé aussi un petit peu, mais la place prégnante qui est donnée à l'expertise de manière générale, et alors encore plus dans le label, qui peut créer en fait le risque que les chargés de mission des collectivités en fait, délèguent la réflexion et la réflexivité au référentiel et aux consultants en fait, du bureau d'études, qui se disent, bon, ben bah, voilà, en fait, tout a déjà été pensé pour nous. Donc on vient se saisir du référentiel et puis on met en action ce qu'il faut. Et juste très rapidement, il y a un troisième volet, un troisième questionnement que là sur lequel j'ouvre un petit peu, qui est qu'est-ce que ça signifie territorialement parlant de mener une politique de transition par le label. Et là, donc, je vais aller à l'essentiel où en fait je me rends compte qu'il faut vraiment, alors ça paraît peut-être des évidences, mais la conception de la transition évolue énormément, alors selon les individus, c'est-à-dire qu'en fait, quand on les interroge sur la, on voit que ce qui, bah, en fait, qui suis-je dans une collectivité en transition, qui je pourrais et je voudrais être dans une collectivité qui aura transité, et finalement ça varie énormément selon la formation et l'expérience de la personne à laquelle on pose cette question-là, et puis du contexte. J'ai vraiment vu des changements d'approche selon qu'on était dans une période de gilets jaunes, d'élections municipales, de crise sanitaire. En fait, là où j'aimerais aller, c'est dans l'idée en fait de tenir compte des singularités, de faire émerger des singularités territoriales qui pourraient se traduire notamment par en fait une spécificité du cadre géographique de la collectivité en question, du système d'acteurs en présence et aussi du périmètre en fait institutionnel qui traduirait en fait des déploiements, on peut dire, peut-être un peu différents de la transition et des possibilités de mener une réflexivité de la transition qui serait en fait différente selon les singularités territoriales. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je ne vous ai pas trop noyé. Et voilà, je mets à l'écran la bibliographie pour que, comme ça enregistré, que ça puisse être saisi éventuellement pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup, j'espère que ce n'était pas trop abstrait et n'hésitez vraiment pas à venir me chercher hein, là-dessus. Voilà.
Merci Manon. Il y a déjà deux personnes qui sont prêtes à réagir et à te poser des questions. Je crois que c'est Isabelle qui a levé la main en première. Donc il y a Isabelle La Jeunesse et François Bertrand qui ont des questions. Si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Isabelle, je laisse la parole.
Merci Corentin. Ben déjà, je voulais remercier Manon pour la clarté de son exposé malgré la grandeur des concepts qu'elle cherche à manipuler, qu'elle manipule. Franchement, non, c'était très clair. Et puis surtout, on comprend ce que vous faites sur le terrain et d'où viennent vos données. Ça, c'est particulièrement appréciable. Moi, j'avais une petite question toute simple. Et puis après, par rapport à la question que vous posez, peut-être un élément que je souhaitais vous soumettre. Alors, est-ce qu'il y a encore, parce que votre audit m'a impressionnée quand même, 600 labels, là, heureusement que j'étais assise, j'aurais pas misé sur autant. Donc la question que j'ai envie de vous poser, peut-être que c'est possible via votre base de données, est-ce qu'il y a encore, parce que ça pourrait contribuer à la réponse à votre question, est-ce qu'il y a encore des collectivités sans labels? Alors, j'ai peut-être pas la réponse, mais ça pourrait contribuer à répondre à l'intérêt du label. Moi, je me suis posé la question, mais je ne suis pas forcément légitime parce que je ne travaille pas trop là-dessus, mais je me disais, est-ce que ce n'est pas une façon pour ces collectivités de se mettre d'accord sur un contrat entre eux-mêmes, hein, un contrat sur des objectifs, outre, et puis savoir par quoi commencer, avoir des choses un peu plus claires, parce que le PCET, finalement, au PCAET, il y a tout un tas de choses proposées par l'ADEME, mais il faut qu'on se mette d'accord dans les collectivités sur c'est quoi les définitions par rapport à tous les concepts que vous avez manipulés et la possibilité de dire qu'on parle de développement durable, sobriété, tout ce que vous avez dit. Et finalement, ce label, bah, est-ce qu'il n'autoriserait pas à dire, bah voilà, nous, notre cadre, c'est celui-là.
Merci beaucoup. Alors, sur la question d'est-ce qu'il y a encore des collectivités sans label, en fait, honnêtement, ce n'est pas une question que je me suis posée. Peut-être comme le nez en plein milieu de la figure, je ne l'ai même pas vue.
Mais c'est pas pertinente, attention, hein, mais...
En fait, ce qui est ressorti dans les entretiens, alors plutôt avec l'ADEME, parce que c'est vrai que c'est des chargés de mission qui ont une bonne connaissance de leur territoire à l'échelle régionale, c'est qu'en fait, là où il n'y a pas de label, ça existe, mais c'est des collectivités qui sont plutôt très frileuses vis-à-vis de ce genre de dispositif. Surtout quand ce sont des labels qui viennent qui sont des labels institutionnels et qui sont plutôt méfiantes à l'égard de l'État. Par exemple, j'ai le souvenir de la DR, de la Direction régionale de l'ADEME Bretagne, qui me disait que sur la pointe Bretagne, il y avait des collectivités qui, historiquement, des élus surtout, qui sont très réfractaires à tous les dispositifs en fait, institutionnels. Donc il y a une grosse résistance en fait à ces outils-là. Après, c'est vrai que là, je m'intéresse aux labels institutionnels. Est-ce que des labels qui sont portés par des associations, par exemple, pourraient un peu plus percoler dans ces territoires-là et être mieux accueilli, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une question qu'il faut que je me pose, et pas que sur la résistance. Hein. En fait, je l'avais plus pris, moi, dans l'autre sens, où je me disais, mais finalement, est-ce que s'il n'y a pas toutes les collectivités qui sont labellisées, du coup, est-ce que le label ne vient plus, en fait, distinguer les collectivités? Est-ce que le mécanisme de différenciation des territoires, du coup, n'existe plus? Et est-ce que le label a toujours sens? Mais c'est intéressant de prendre le contrepoint et c'est une question que je vais creuser. Merci beaucoup. Et après, donc, j'essaie de faire plus synthétique. Se mettre d'accord sur un contrat, j'ai eu la sensation que c'était en fait... alors, ça dépend comment en fait l'outil est saisi par la collectivité. Quand il est saisi comme une opportunité, ce qui est quand même la plupart du temps le cas, finalement, il est beaucoup saisi comme un outil très technique où on a un document Excel qui vient en fait faire une liste des mesures et puis on coche les cases en fait avec le conseiller. Et j'ai le sentiment que souvent, c'est plutôt le PCAET justement qui est lui perçu comme un outil politique. C'est ce qui est ressorti dans pas mal d'entretiens. Hein. Le PCAET, c'est vraiment la stratégie sur laquelle on s'est mis d'accord, qu'on a travaillé tous ensemble et puis avec les élus. C'est notre outil politique. Et puis, Citergie, ça vient vraiment juste, ça reste un outil très technique, il faut qu'il reste à sa place. Et c'est justement peut-être aussi ce qui explique ces approches aussi différentes de la transition et plutôt pragmatiques. Mais encore une fois, ça dépend énormément même de l'élu ou du chargé de mission. Enfin, c'est très difficile. Enfin, une collectivité, c'est très divers. Et je sais que j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est vrai que quand on a un chargé de mission qui a une formation ingénieur, on a vraiment tendance à avoir une entrée par l'énergie et la mesure d'indicateurs, la maîtrise de l'énergie. Et quand on a un chargé de mission qui a une formation plus généraliste, universitaire ou des masters comme on peut avoir nous, on a une entrée plus globale avec une approche souvent plus sensible et une formation ou une expérience de l'animation territoriale, de la démocratie participative qui fait qu'ils apprennent vraiment les choses de façon différente. Et je ne crois pas que Citergie vienne justement créer cette espèce de contrat collectif. Et je crois que c'est plus le PCAET dans ce que j'ai vu, parce que c'est vrai que très souvent, les collectivités qui se saisissent de Citergie se sont en fait saisies avant du PCAET ou s'en servent pour construire et élaborer leur PCAET. Je ne sais pas si ça reste
beaucoup. Si, si, très bien, merci.
Merci, Manon. Je vais passer la parole à François qui, comme moi, est éclairé par les doux rayons du soleil de novembre. Si vous arrivez à faire un peu circoncis tous les deux, ça serait super pour qu'on puisse aller faire une pause ensuite. Vas-y, François.
Alors, moi, je vais faire vite, mais j'ai plein de questions. Parce que je trouve que le sujet est vraiment intéressant, la place du label dans la transition. Alors, j'ai deux questions factuelles. Ça fait combien de temps que le travail de thèse il est commencé, et puis combien il y a de terrains qui sont enquêtés?
Alors, je réponds rapidement. Là, je viens de faire mon comité de suivi de thèse de fin de deuxième année. Donc, je rentre dans la troisième année. Voilà, et ce qui explique un peu cet entre deux là. Et puis combien de terrain? Bah justement, en fait, alors c'est ça qui est un peu, je suis passée un peu rapidement dessus, mais c'est que en fait j'ai interrogé 10 collectivités, j'ai fait des entretiens sur 10 collectivités, mais je considère que mon terrain c'est vraiment le label Citergie, quoi. C'est ça qui a été difficile d'ailleurs pour moi au tout début. C'est que je disais, mais je n'ai pas un terrain, et en fait, je me rends compte que oui, ce n'est pas un terrain matériel, physique, auquel on peut s'attendre, surtout quand on fait une thèse de géographie, et ça m'a un peu perturbée. Mais je pense sincèrement que mon terrain, c'est le label Citergie, et je suis allée un peu chercher partout là-dedans. Après, très factuellement, j'ai interrogé 10 collectivités, sachant que les observations que je suis en train de mener là, de réunions, copiles, Cotec, tout ça, audit, Citergie, se font dans des collectivités avec lesquelles j'ai fait des entretiens et dans des collectivités supplémentaires.
Ok. Non, ben on va faire vite parce qu'on va pas avoir le temps de développer. Donc moi, je vais te faire juste mes remarques sur ce que tu as présenté, sur peut-être des éléments qu'auraient pu apporter plus de profondeur, ou en tout cas, moi, de ce que je connais du label Citergie, qui m'ont peut-être un petit peu manqué. Je trouve que tu restitues pas assez la place du fait qu'il y a un intervenant extérieur, expert consultant, qui vienne apporter un regard extérieur au sein de la collectivité, et en quoi il est opérateur de transversalité, de dialogue interservice ou de légitimité extérieure, enfin vraiment la place du consultant, sachant que je crois que dans le processus synergie, ça a quand même un gros rôle. La chose qui me manque, parce que vraiment, je crois que tu as vraiment beaucoup de, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je crois que tu as beaucoup de matière. La place du personnel politique, en quoi le personnel politique s'associe à la démarche ou est-ce que c'est une démarche qui reste que dans les services, sachant que pour moi, c'est une démarche effectivement très technique à base de tableurs Excel, de consultants, etc. Donc, comment les politiques arrivent à se raccrocher concrètement aux travaux de synergie ou est-ce qu'ils s'en saisissent que comme des ressources pour communiquer, parce que c'est un label très communicant, et etc. Donc la place du personnel politique, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'a manqué, alors là, peut-être tu pourras répondre très rapidement, c'est pour moi, synergie, c'était quelque chose que les collectivités prenaient parce qu'elles étaient obligées de le prendre pour avoir les sous de l'ADEME, pour payer leur chargé de mission plan climat, etc. C'était une conditionnalité que mettait l'ADEME. En tout cas, pendant longtemps, ça a été ça, peut-être que c'est moins le cas. La place de comment les collectivités vont chercher volontairement synergie et vont payer pour synergie, ou est-ce que ça leur est payé par l'ADEME, mais du coup imposé dans un pack avec d'autres choses, on veut l'argent de l'ADEME, on prend synergie, ça me paraît indispensable comme cadrage, comme cadrage de concept. Et puis, je vais pas aller plus loin. Si peut-être quand même la question du management à distance, ouais. Enfin, on disait le gouvernement à distance de l'État central. Et là, synergie, ça me fait quand même penser à une forme de management à distance de l'ADEME, mais un management très énergético-centré et très interne à la collectivité. Mais ça, c'est juste ce que ça m'a. Voilà. Et effectivement, comment après on se sert de synergie à l'extérieur ou pas? Voilà. Ça, c'est oui, juste des pistes de questions à creuser. Parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire là-dessus.
Ouais, merci beaucoup. C'est des questions que j'ai creusées et que je n'ai pas pu présenter aujourd'hui. La question de l'intervenant extérieur, la légitimité, la crédibilité aussi, tout ça, c'est des éléments. Enfin, j'ai pas mal d'éléments là-dessus. La question, donc on pourra en rediscuter à l'occasion. La question sur le personnel politique, ça c'est une question que je me suis posée, mais j'ai beaucoup plus de mal à la traiter parce que j'ai fait mes entretiens dans une période d'élection et avec tout ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de mal à avoir accès aux équipes politiques. Et c'est pour ça que c'est là où les observations sont intéressantes, parce que ça me permet au moins de voir s'il y a un élu qui est là et quelle est sa posture, etc. Donc ça c'est des questions aussi que je me suis posée, mais j'ai beaucoup plus de mal à creuser honnêtement.
Moi j'aurais tendance à dire que c'est quand même des processus où il n'y a pas beaucoup de personnel politique dans leur réalisation concrète, mais c'est une idée que j'aurais.
Ça c'est sûr. Après, en fait, selon les territoires, on s'en saisit plus ou moins. Typiquement, Grenoble, les élus sont beaucoup plus moteurs et investis. Voilà. Si je caricature pour aller vite.
Ah, mais... non, ouais.
Sur la conditionnalité, là c'est important, je voudrais juste prendre 5 minutes pour répondre. En fait, effectivement, alors, pour faire très synthétique, le fonctionnement, l'engagement des collectivités dans synergie et comment les mécanismes d'engagement dépendent des directions régionales de l'ADEME. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consigne. Donc, il y a des régions où l'ADEME va mettre en place un appel à projet, des régions où l'ADEME va fonctionner au fil de l'eau. Il y a des régions où le charge, donc le référent en fait de la direction régionale de l'ADEME, va conditionner certains financements à l'entrée dans synergie. Il y a des contrats d'objectifs qui sont menés ou des choses comme ça. Donc, il y a des conditionnalités qui sont effectivement faites selon les régions. Par exemple, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour ça qu'ils sont, d'ailleurs, on voit sur la carte, il y a beaucoup plus de points parce qu'il y avait un chargé de mission qui était très actif. C'est presque vécu comme une obligation par les collectivités et parfois, d'ailleurs, c'est mal vécu. Puis, il y a des régions où, en fait, c'est vraiment au fil de l'eau, on accompagne, on voit qui veut ou pas. En tout cas, en termes de financement, si on regarde juste strictement le minimum, hein, sans parler des conditionnalités et des contrats d'objectifs qui peuvent être signés, en fait, l'ADEME vient apporter un financement, le financement de l'accompagnement, donc ouais. Le financement du conseiller, sur les deux premiers cycles, donc les 8 premières années. Donc en fait, les collectivités, elles ne vont pas s'en saisir pour se doter, enfin pour financer des postes. Par contre, effectivement, elles peuvent s'en saisir pour financer un AMO, quoi. Sachant que dans les marchés, après, avec les conseillers, ils sont. Ça dépend. Voilà, ils sont construits par la collectivité en accord avec son conseiller. Et parfois, l'accompagnement est assez léger, parfois, il est très important. Voilà, pour résumer. Donc, oui, il y a un intérêt financier. En fait, l'intérêt, le levier, enfin, l'intérêt financier, il est plus dans. Si on a Citergie, on peut mettre ça dans nos appels à projets et on peut avoir d'autres financements, effectivement. C'est comme ça. On sait que l'ADEME va bien nous voir et qu'on sera prioritaire aussi pour être pilote sur telle autre expérimentation, tel autre label qui apportera d'autres financements.
Il y a un voilà. Double intérêt financier, à mon avis, oui, c'est que ça ouvre la porte à des financements ultérieurs et c'est gratuit, enfin, le conseiller est gratuit.
Voilà, exactement. Et après, juste sur le management à distance, oui, c'est une question que j'ai... Alors, la question de management, elle est énorme dans Citergie, il y a beaucoup de choses dessus. Les travaux de Renaud Epstein sur le gouvernement à distance, par les labels notamment, illustrent vraiment bien cette question ouais, oui, du gouvernement à distance par l'ADEME, qui en fait est un opérateur de l'État, donc presque on peut se poser la question du gouvernement de l'État hein, à distance. Et voilà, il y a un fort tropisme sur l'interne, donc voilà, effectivement, ça pose des questions, et puis c'est pour ça que c'est là où il faut relier ça à la question de la restructuration de l'action publique aussi, je pense. Et puis juste pour revenir, Citergie a beaucoup évolué, et a été dans une entrée très énergétique au début, et s'est climatisé au fur et à mesure, en intégrant les différentes réglementations, notamment la loi de transition énergétique et puis aussi voilà, la climatisation un peu comme on parle en fait à écouter d'un. Et donc c'est vrai que l'entrée très énergie dont vous parliez, elle est un peu moins vraie je pense aujourd'hui. Par contre il a été saisi comme ça parfois par des collectivités et même encore aujourd'hui qui me disent typiquement d'ailleurs Grenoble qui me dit ah ben moi, nous, on est rentré là-dedans pour l'énergie et en fait, quand on a vu le référentiel, on s'est rendu compte que c'était bien plus large, donc on a dû repenser ce qui était prévu. Voilà, j'ai tout. Voilà. J'espère que ça va, que c'était pas trop confus. Et merci beaucoup d'avoir été me chercher là-dessus, ouais, sur toutes ces questions. Merci à tous les deux.
Eh ben, merci Manon. Je remercie une nouvelle fois Lénaïg et Manon pour cet axe 2 qui se termine.